Chapitre 10. Il montait à tâtons le lendemain dans les ténèbres, suivant la spirale d'un escalier en pas de vis. Soudain, dans un jet de lumière bleuâtre, il aperçut un homme, tout en longueur, debout, enveloppé d'une houppelande de ce verre spécial au parmesan, anisé en guise de bouton de grain rose, très serré à la taille, s'évasant derrière le dos, formant un vertugadin filigrane d'une canetille métallique peinte au minium. Au-dessus de cet entonnoir, échancré du devant, laissant passer deux brefs tétons nus au bout enfermés dans des dés à coudre, jaillissait un coup un soufflet, tuyauté comme une manche d'accordéon, puis une tête emboîtée dans un seau hygiénique de toile bleue, ornée d'un panache de catafalque et retenue par son anse ainsi que par une jugulaire sous le menton. Peu à peu, quand ses yeux eurent vidé la nuit dont ils étaient pleins, Jacques distingua la face de cet homme. Sous le front cerclé de rose par la pression du seau, deux pinceaux de poils se dressaient au-dessus d'yeux agrandis par la belle ladone, séparés par un néant furoncle, fécond et mûr, reliés par un chenal velu à l'as de cœur d'une bouche qu'étayait la console d'un menton ponctué comme celui d'un déménageur d'une virgule de pois roux. Et un tic agitait ce visage monstrueux et blême, un tic qui retroussait la pointe enflammée du nez et haussait les yeux, agrippait du même coup les lèvres, remorquait la mâchoire inférieure et découvrait une pomme d'Adam granulée de picotis de même qu'une chair déplumée de poule. Jacques suivit cet homme dans une pièce immense, aux murs en pisé, éclairée presque au ras du plafond par des fenêtres en demi-roue. Tout en haut, près des corniches, couraient des tuyaux d'étoffes vertes, semblables à des conduits acoustiques ou aux tubes exagérés d'un aiguisier énorme. Ni pavillon de palissandre pour souffler dedans, ni canule qu'on y pût joindre, rien. Ces appareils, sans destination connue, traversaient seulement la chambre. Au-dessous d'eux pendaient à des crocs en forme de huit des têtes de veau échaudées, très blanches, tirant toute la langue à droite, puis fixées à de longs clous, des chapscas à pistaches aux plateformes groseilles et des shakos sans visière en peaux à beurre. Dans un coin, sur un poêle de fonte, chantait une marmite de terre dont le couvercle se soulevait en crachant de petites bulles. L'homme plongea son bras dans la poche de sa houppelande, ramena une poignée de cristaux qui crièrent en se concassant dans sa main, et d'une voix tout à la fois gutturale et froide, il dit, en regardant fixement de ses prunelles dilatées Jacques, « Je sème les menstrues de la terre dans ce pot où bouillotte, avec les abattis de l'époride, la venaison des légumes, le gibier du petit pois, la fève. » Parfaitement, dit Jacques, sans sourciller. J'ai lu les anciens livres de la Kabbale et je n'ignore point que cette expression « les menstrues de la terre » désigne tout bonnement le gros sel. Alors l'homme mugit et le récipient qui le coiffait tomba. Sur un crâne piriforme, emplissant jusqu'au fond le seau, apparut une masse épaisse de cheveux vermillons, pareils aux crins qui gardissent, dans certains régiments de cavalerie, le casque des trompettes. Il leva, tel qu'un Bouddha, l'index en l'air. De puissants borborygmes coururent dans les serpents de laine verte qui s'allongeaient sous le plafond. Les langues exaltées se promenèrent dans la gueule flétrie des veaux, en simulant le cri d'un rabot en marche. Un roulement de tambour partit des shakos en pose à beurre, puis tout se tut. Jacques pâlit. « Ah, c'était clair !» un indit inconnu, mais dont les termes étaient formels, lui prescrivait de remettre, contre récépissé, sa montre entre les mains de cet homme, et cela sous peine des plus lents supplices. Il le savait, et sa montre était restée à l'ours, pendue sur le mur au fond du lit. Il ouvrit la bouche pour s'excuser, pour demander un délai, pour supplier qu'on lui fît grâce. Et il demeura pétrifié et sans voix, car les yeux effrayants de l'homme s'allumaient comme des lanternes de tramway, flambaient ainsi que des boules de pharmacie, éclataient enfin tels que des fanaux de transatlantique dans la pièce. Il n'eut plus qu'à but prendre la fuite. Il s'élança dans l'escalier, se trouva tout à coup au fond d'un puits bouché à son sommet, mais éclairé le long de son tube par des volets repliés de bois, disposés de même que les lames de jalousie énormes. Aucun bruit, une clarté diffuse, une lumière d'éclipse, une lueur d'aube en octobre par un temps de pluie. Il regarda. En haut, des échafaudages monstrueux, des poutres enlacées, enchevêtrées les unes dans les autres, enfermaient dans une inextricable cage une grosse cloche. Des échelles zigzaguaient dans ce lacis de planches, longeaient des fermes en charpente, descendaient brusquement, se cassaient, perdaient leurs barreaux, s'arrêtaient à des plateformes de madriers, puis remontaient, suspendus sans point d'appui dans le vide. Sans qu'il sût comment, Jacques était installé sur une sorte de dunette près des jalousies gigantesques qu'il comprit être des abat-sons. « Je suis dans un clocher, » se dit-il. Il plongea en dessous de lui. Une cuve formidable de noir dans laquelle nageaient, ainsi que des pattes d'Italie, des étoiles, des croissants, des losanges, des cœurs phosphorescents, tout un ciel souterrain constellé d'astres comestibles, l'épouvanta. Il regarda par les lames des abat-sons. À des distances incalculables, il apercevait la place Saint-Sulpice, déserte, avec une boîte de décrotteurs près de la fontaine. Personne, si ce n'est un sergent de ville, sans képi, chauve, arborant tel qu'un poireau sur le sommet de la tête une houppe de fil blanc. Jacques songea à réclamer son aide, à demander sa protection. Il dégringola pour le rejoindre, le long d'une échelle, et pénétra dans une galerie labourée plantée de potirons. Tous palpitaient, se soulevaient, enfiévrés, tiraient sur les tiges qui les attachaient au sol. Jacques eut l'immédiate perception qu'il voyait un champ de fesses mongoles, un potager de derrière appartenant à la race jaune. Il examinait les rainures profondes, bien arquées, qui s'enfonçaient dans ces sphères aux épithermes rebondis d'un orange vif. Puis une curiosité infâme lui vint. Il allongea la main. Mais, comme découpés à l'avance par un prévoyant fruitier, les potirons s'ouvrirent, tombèrent, divisés en tranches, montrant leurs entrailles de pépins blancs disposés en grappes dans la jaune rotonde du ventre vide. Oh, faut-il être bête ? Et tout à coup, sans raison, il se consterna, en songeant que des morceaux enfermés de ciel courait sous la voûte en pierre de cette pièce. Et une immense pitié le prit pour ces lambeaux de firmament sans doute volés et internés depuis des siècles peut-être dans cette salle. Il s'approcha d'une fenêtre pour l'ouvrir, mais un bruit de pas et de voix se fit entendre. « On me cherche, » se dit-il. Le bruit se rapprochait. Distinctement, il percevait le cri de ferraille des fusils qu'on arme et des sons pesants de crosse. Il voulut se sauver, mais la porte, bousculée par un vent furieux, craquait. Oh, ils étaient là, derrière cette porte, tels qu'il les devinait sans les avoir jamais vus, Les démons qu'implore la nuit, l'aberration des filles qui se forment, les monstres en quête de cratères nubiles, les pâles et mystérieux meubles, incubes au sperme froid. Du coup, il savait dans quel abominable sérail il s'était égaré. Car une phrase lue jadis dans le Disquisitionum Magicorum de l'exorciste Del Rio lui revenait têtue et nette: Démones exerceant cum magicis sodomiam, avec des magiciens. Oui, ce chant de citrouille n'était à n'en point douter un sabbat de sorciers, accroupis, enfoncés en terre, et se démenant pour s'exhumer la tête et le corps. Il recula. Non, à aucun prix il ne voulait assister aux dégoûtantes effusions de ces cultures animées et de ces larves. Il fit encore un pas en arrière, sentit le sol se dérober sous lui, se retrouva étourdi, debout, dans la tour, au bas de la cloche. Cette cloche marchait, mais son battant ne frappait point le métal, et pourtant des sons étranges s'entendaient, répercutés par les échos de la tour. Il leva le nez en l'air et béa. Une vieille femme, vêtue d'un chapeau calèche, d'une camisole de nankin cailloutée de taches, d'un tablier bleu sur lequel ballottait une plaque de marchande des quatre saisons, en cuivre, de la forme d'un cœur, était assise, les jambes pendantes, sur une poutre, et il apercevait sous ses côtes relevées des cuisses énormes, soigneusement comprimées dans de sévères bas à varices. Sur une pochette de maître à danser, elle jouait, en versant de grosses larmes, l'air de Beau grenadier que tu m'affliges, et les boudins à la reine Amélie, qui tire-bouchonnaient le long de ses tempes, sautaient en mesure, ainsi que ses larges pieds, chaussés de souliers en drap rouge, d'enfant de cœur. En face d'elle se tenait assis dans une écuelle de bois, posé sur un madrier, un cul-de-jatte coiffé d'un bassin de malade, pareil à un béret de porcelaine blanc, habillé d'un tablier de mioche en cotonnade à raies attaché derrière le dos, laissant libres les bras couverts, du poignet au coude, de manchettes en percale, retenues comme celles des charcutières par de grands élastiques d'un bleu très doux. Et cet homme soufflait dans un pibroch si fort que ses yeux verts disparaissaient tels que des points de câpre derrière les ballons roses portant le nom d'un magasin formé par ses deux joues. Jacques réfléchissait. Il était dans un clocher et c'était bien naturel, puisqu'étant dénué de pain, il avait accepté cette place de sonneur dans une église. Ce sont sans doute mes aides, se dit-il, en contemplant les deux bizarres créatures qui tapageaient là-haut sur des charpentes. Mais pourquoi pleure-t-elle ainsi? Poursuivit-il en regardant les cataractes salées de larmes qui ruisselaient sur le visage désolé de la vieille. Oh, elle se sera disputée avec son mari, ce cul-de-jatte peut-être. Cette explication le satisfit. Puis il sauta sur une autre idée. Il ne doit pas y avoir d'eau dans cette tour, mais comment pourrais-je m'y installer? Au fait, la vieille consentira sans doute, moyennant une brève redevance, à monter des seaux. Voyons-la. Il voulut la rejoindre, s'aventura sur un madrier, mais effaré par le vide, il fléchit, la gorge contractée, le front mouillé de sueur. Il n'osait plus ni avancer ni reculer. Ses reins pliaient, il tomba à quatre pattes, se mit à cheval sur la poutre qu'il étreignit furieusement de ses deux jambes, et il ferma les yeux car sa tête tournait. Mais l'angoisse les fit rouvrir. Lentement, la poutre glissait, comme savonnée, entre ses cuisses. Il la vit diminuer, il sentit le bout fuir sous son ventre, poussa un cri, battit l'air de ses bras, s'abîma dans le gouffre. Puis, dans la rue Honoré-Chevalier, qu'il arpentait, il se frappa le front. « Et ma canne ?» se dit-il. Au moment où il se trouvait, cet événement insignifiant prenait une importance énorme. Il savait d'une façon péremptoire que sa vie entière dépendait de cette canne. Il oscilla, affolé, revint sur ses pas, courut d'un trottoir à l'autre sans pouvoir réunir deux idées sûres. « Mais je l'avais tout à l'heure, mon Dieu, mais où l'ai-je perdu ?»« Ah !» Une certitude absolue s'imposait soudain. C'était là, derrière cette porte cochère entrebâillée, là, dans une cour où n'était jamais venu, qu'était sa canne. Il pénétra dans une sorte de puisard. Pas un chat, mais un air peuplé de ténèbres, habité, empli d'invisibles corps. Il comprit qu'il était entouré, épié. Que faire? Et voilà que maintenant la cour s'éclairait et que le grand mur du fond, appuyé sur une maison voisine, se muait en une immense paroi de verre derrière laquelle clapotait une masse turbulente d'eau. Un coup sec, analogue à celui que frappent ces petites machines qui timbrent les tickets dans les bureaux de chemin de fer ou dans les omnibus, retentit. Ce bruit partait du mur éclairé en bas. Jacques scrutait le sol, quand, au ras des pavés et derrière la cloison de verre, une tête surgit dans l'eau, une tête renversée de femme qui monta d'un mouvement saccadé, lent. Le corps émergea à son tour, puis des seins menus aux boutons rigides, puis tout un torse ferme, un peu fripé sous le flanc, enfin une jambe soulevée, cachant à demi le ventre qui palpitait, petit et renflé, un ventre aux chairs lisses, encore épargné par les dégâts des couches. Et en même temps qu'elle s'élevait, accrochée dans sa hanche, les becs en fer d'un formidable cric. Ses becs mordaient sa peau qui saignait et l'eau troublée se piquait de pois rouges. Jacques chercha la figure de cette femme, la vit, d'une beauté solennelle et tragique, altière et douce, mais presque aussitôt, une souffrance indicible, une torture silencieuse, résolue, moirèrent sa face pâle dont la bouche défiait avec un sourire langoureux et barbare d'une volupté atroce. Il fut secoué, remué dans ses entrailles, s'élança pour secourir cette malheureuse, entendit subitement derrière la cloison de verre deux coups secs comme le choc de deux billes sautant sur un coq dur. Et les yeux de la femme, ses yeux bleus et fixes, avaient disparu. Il ne restait plus à leur place que deux creux rouges qui flambaient tels que des brûlots dans l'eau verte. Et ses yeux renaissaient immobiles et se détachaient et rebondissaient, ainsi que de petites balles, sans que l'onde traversée amortît leur son. Alternativement, de ce douloureux et doux visage, des trous cramoisis et des prunelles bleues tombaient dans cette scène en hauteur au fond d'une cour. Ah, ces successions de regards azurés et d'orbites noyées de sang étaient affreuses. Il pantelait devant cette créature, splendide alors qu'elle demeurait intacte, effroyable de que ses yeux décollés fuyaient. L'horreur de cette beauté constamment interrompue et qui avoisinait la plus épouvantable des laideurs, avec ses godets de pourpre et ses lèvres, qui sans dévier d'un pli devenait, dès que l'équilibre de la face se perdait, hideuse, était sans nom. Alors Jacques voulut s'échapper, mais aussitôt que les prunelles rayonnaient en place, il voulait se jeter sur cette femme, l'emporter, la sauver des invisibles mains qui la suppliciaient, et il restait là, hagard, tandis que la femme montait, montait, soutenue par ce cri qui s'enfonçait dans sa hanche et la becquetait plus profondément à mesure qu'elle s'élevait. Elle finit par atteindre le haut du mur et apparut, ruisselante, à l'air, au-dessus des toits, dans la nuit, montrant ainsi qu'une noyée, son flanc crevé par des fers de gaffe. Jacques ferma les yeux. Des râles de détresse, des sanglots de compassion, des cris de pitié l'étouffaient. Une terreur intense lui glaçait les moelles, lui cassait les jambes. Il regarda, malgré lui, faillit s'inanimer et s'ébouler à la renverse. La femme était maintenant assise sur le rebord de l'une des tours de Saint-Sulpice. Mais quelle femme! Une guenipe sordide qui riait d'une façon crapuleuse et goguenarde, un torchon coiffé en paquet d'échalotes sur le haut de la tête, les cheveux en flammes sur le front, les yeux liquides, capotés de bourse, le nez sans racine, écrasé du bout, la gueule gâchée, dépeuplée sur l'avant, carriée sur l'arrière, barrée comme celle d'un clown de deux traits de sang. Elle tenait tout à la fois de la fille à soldat et de la rempailleuse, et elle rigolait, tapait du talon la tour, faisait de l'œil au ciel, tendait au-dessus de la place les besaces de ses vieux seins, les volets mal clos de sa bedaine, les outres rugueuses de ses vastes cuisses, entre lesquelles s'épanouissait la touffe sèche d'un varech à matelas ignoble. « Mais qu'est-ce là ?» se demanda Jacques effaré. Puis il se remit, tenta de se raisonner, parvint à se persuader que cette tour était un puits se dressant en l'air au lieu de s'enfoncer dans le sol, mais enfin un puits. Un seau de bois cerclé de fer posé sur la margelle l'attestait du reste. Alors tout s'expliquait. Cette abominable gaupe, c'était la vérité. Comme elle était avachie. Il est vrai que les hommes se la repassent depuis tant de siècles. Au fait, quoi d'étonnant? La vérité n'est-elle pas la grande roulure de l'esprit, la traînée de l'âme? Dieu seul, en effet, sait si depuis la Genèse, celle-là s'est bruyamment galvanisée avec les premiers venus, artistes et papes, cambrousiers et rois. Tous l'avaient possédée et chacun avait acquis l'assurance qu'il la détenait à soi seul et fournissait au moindre doute des arguments sans réplique, des preuves irréfutables, décisives. Surnaturelle pour les uns, terrestre pour les autres, elle se met indifféremment à la conviction dans la Mésopotamie des âmes élevées et dans la Sologne spirituelle des idiots. Elle caressait chacun, suivant son tempérament, suivant ses illusions et ses manies, suivant son âge, s'offrait à sa concupiscence de certitude dans toutes les postures, sur toutes les faces, au choix. « Il n'y a pas à dire, elle a l'air faux comme un jeton, » conclut Jacques. « Que t'es bête !» dit une voix de rogomme. Il se tourna, vit un cocher de l'urbaine, enveloppé dans un carré gris à trois collets avec son fouet passé autour du col. « Tu ne la reconnais donc pas, mais c'est la fille à la mère Eustache !» Jacques, surpris, ne répondait point. Alors, et bien qu'il fût de mine patriarcale, ce cocher vociféra d'affreux blasphèmes, puis comme pris de démence, sauta à cloche-pied et cracha de la sauce tomate dans le mortier d'un président de cour qui se trouvait là par terre et, délibérément, les manches retroussées, il se rua les poings en avant sur Jacques qui se réveilla en sursaut dans son lit, fourbu, mourant, trempé de sueur. Chapitre 11. Plusieurs nuits se succédèrent, des nuits où l'âme élargie de sa misérable geôle voleta dans les catacombes enfumées du rêve. Les cauchemars de Jacques étaient patibulaires et désolants, laissaient, dès le réveil, une funèbre impression qui stimulait la mélancolie des pensées déjà lasses de se ressasser à l'état de veille dans le milieu de ce château vide. Aucun souvenir précis de ces excursions dans les domaines de l'épouvante, mais un vague rappel d'événements douloureux traversés par d'alarmantes conjectures. Jacques ressentait le matin une sorte de fièvre, un étourdissement d'homme ivre, trébuchant dans sa mémoire un malaise général, une courbature par tout le corps. Une fois de plus, il s'inquiéta des causes qui dédoublaient ainsi sa vie et la rendaient tantôt incohérente et tantôt lucide. À bout d'arguments, il se demanda, songeant à une disgrâce momentanée de Louise, si l'extraordinaire sentence de Paracelse, « Le sang régulier des femmes engendre des fantômes », n'était pas vraie. Puis il sourit et leva les épaules, s'abstint désormais de boire des liqueurs, attendit pour se coucher que la digestion fût faite, se couvrit plus légèrement dans le lit et obtint, à défaut d'un sommeil dépeuplé, des visions plus confuses et plus douces. Le temps étant revenu au beau, il se contraignit à marcher, visita les villages des alentours, s'enfuita à Savin, vit un petit hameau composé de deux allées bordées par des cahutes ceintes de haies mortes. Il put constater que les promenades hors du château étaient sans intérêt. C'était partout de grandes routes poudreuses, plantées çà et là de bornes kilométriques et de noyers, rayées en l'air, souvent par le fil d'un télégraphe, bosselées tous les 100 pas par des tas de caillasses, et toutes conduisaient, après des marches plus ou moins longues, à des bourgs semblables habités par des paysans pareils. Il fallait s'éloigner de plusieurs lieux pour gagner les bois. Mieux valait encore errer dans le jardin de l'ours et dormasser à l'ombre de ses pins. Puis il vécut des heures moins prévues et une journée plus neuve. Le curé venu, le dimanche à l'ours, avait laissé la clé de l'église chez l'oncle Antoine, afin qu'il la pût remettre au serrurier qui devait réparer des gonds. Jacques l'emprunta. Cette clé n'enfonçait pas dans la grande porte de l'église qui s'ouvrait près du château sur le chemin. Il dut contourner le portail, pénétrer dans le cimetière, enclos de palis, plein d'herbes folles et de croix en bois noir et en fonte mangée de rouille. Il chercha les sépulcres de ces marquis dont parlait le père Antoine, mais il ne parvint pas à les trouver. De serpigineux ulcères de lichen et de mousse rongeaient les tombes dont les creuses inscriptions étaient depuis longtemps comblées. Peut-être était-ce sous l'une de ces pierres que gisaient les restes abandonnés de Saint-Phal. Ce cimetière était pimpant dans le coup de soleil qui le frappait. C'était une bagarre d'herbes, une cohue de branches au milieu desquelles s'épanouissaient sur des tiges onglées de griffes les boutons du rose indolent des églantiers. Dans ce terrain, abrité par l'église, l'air paraissait plus tiède. Des bourdons renflaient, cassés en deux sur des fleurs qui se balançaient en pliant sous leur poids. Des papillons volaient de travers comme grisés par le vent. Quelques-uns des pigeons sauvages du château filaient à tire-d'aile avec un cri d'étoffe. Jacques regretta de n'avoir pas connu plus tôt ce petit coin si placide et si douillet. Il lui sembla que là seulement il pourrait pactiser avec ses transes et bercer l'insomnie de ses pensées tristes. On était si loin de tout, si caché, si seul. Il suivit dans les hautes herbes un hésitant sentier qui menait à une porte creusée dans le flanc de l'église. Avec sa clé, il l'ouvrit et déboucha dans une nef badigeonnée au lait de chaux. Cette église était en longueur, sans transept simulant les bras d'une croix, formée simplement par quatre murs le long desquels de minces colonnes disposées en faisceaux s'élançaient jusqu'aux arceaux des voûtes. Elle était éclairée par des rangées de fenêtres se faisant face, des fenêtres en ogive, à courtes lancettes, mais dans quel état! Les pointes des lancettes cassées et rafistolées avec des morceaux de ciment et des bouts de briques, les verrières remplacées par des vitres divisées en de faux losanges de papier de plomb ou laissées telles quelles, vides, la voûte éraillée, perdant les escarres de sa peau de plâtre, pliant, surmenée sous la pesée du toit. Il se trouvait dans une ancienne chapelle de style gothique, démolie par le temps et mutilée par des maçons. Au-dessus du chœur, une poutre carrée traversant l'édifice d'une croisée à l'autre supportait un immense crucifix dont le bas était vissé dans la poutre par des écous de fer. Le Christ barbarement taillé, enduit d'une couche de peinture rose, avait l'air d'un bandit barbouillé de sang pauvre. Mal attaché sur sa croix, il tanguait au moindre vent, en criant sur ses clous qui jouaient du crâne aux pieds, de longs filets de fiente le sillonnaient, s'accumulant près de la blessure de son flanc dont la couleur plus épaisse faisait rebord. Les chats-huants et les corbeaux entraient librement dans l'église par les trous des vitres, perchaient sur ce Christ et, battant de l'aile, le balançaient en l'inondant de leurs jets digérés d'ammoniac et de chaux. Sur le pavé du sanctuaire, sur les stalles pourries de bois, sur les bancs de l'autel même, c'était un amas de blanches immondices, une vidange d'oiseaux carnivores ignobles. Jacques s'approcha de l'autel dont les planches à peine rabotées s'apercevaient sous les linges empesés par le guano et encompissés par des éclats de puits. Il était surmonté d'un tabernacle constellé de même qu'une enveloppe de biscuits d'hospice, d'étoiles en argent sur un fond bleu, de flambeaux munis de faux cierges en carton et de vases égueulés privés de fleurs. Un fumet de charogne encensait l'autel. Guidé par cette odeur, Jacques passa derrière le tabernacle et vit, par terre, des restes de mulots et de souris, des carcasses sans tête, des bouts de queue, des bourres de poils, tout le garde-manger des chats-huants restait là, près d'une armoire de sapin entr'ouverte dans laquelle pendaient des ébétoles et des aubes. Il eut la curiosité de visiter cette armoire, et au-dessous du porte-manteau, il discerna pêle-mêle sur une planche un cornet de pointe, le calice et le ciboire, et une boîte en fer-blanc mal bouchée, gardant quelques hosties. Alors il parcourut la nef, et au fond, près de la grande porte, il regarda sur les fonds baptismaux un fragment de journal qui renfermait du sel et une vieille bouteille d'eau de mélisse qui contenait des gouttes d'eau. Ah, tout de même, le prêtre qui laissait dans un tel état d'abandon l'église où il célébrait les offices était un bien singulier prêtre. Il aurait pu du moins serrer ses pains azymes et ses vases, se disait Jacques. Il est vrai que Dieu résidait si peu dans cet endroit, car l'abbé gargotait les sacrements, bousculait sa messe, appelait son seigneur en hâte et le congédiait dès qu'il était venu sans aucun retard. C'était un service tout à la fois télégraphique et divin, suffisant peut-être pour les 3 ou 4 personnes arrivées de Longueville et qui n'osaient s'asseoir tant les bancs étaient vermoulus et sales. Jacques allait partir lorsque ses yeux s'arrêtèrent sur le pavé du chœur. Parmi des carreaux d'inégale grandeur, il remarqua des dalles régulières qui ressemblaient à des tables couchées de tombes. Il s'agenouilla, les gratta, découvrit des inscriptions en caractère gothique, les unes complètement usées, les autres visibles encore autour de vagues écussons et de figures étendues à plat, les pieds rapprochés et les mains jointes. Il retourna au château, rapporta une écuelle d'eau et un torchon, et dans la boue qu'il frotta, les lettres remplies parurent. Mot à mot, il déchiffra sur l'une de ces pierres « Sigiste Louis Legouze, escuyer en son vivant seigneur du Loup sans Brie et de Chimay en Touze. Le 21e jour de décembre 1525, faisait Dieu pour lui. » Sur une autre, il lut « Sigiste Charles de Champagne, chevalier, baron de l'Ours, qui décéda le 2 de février 1655, qui était fils de Robert de Champagne, chevalier, seigneur de Séveil et Sainte-Colombe, etc. Requiescat in pace. » Quant aux autres, plus anciennes sans doute, elles étaient tellement effacées qu'il ne put, malgré tous ses efforts, reformer les lettres. Il demeura un peu surpris. Personne dans le pays ne connaissait ces tombes à peine foulées le dimanche par un négligent prêtre et par d'indifférentes ouailles. Il marchait sur les anciens suzerains oubliés dans leur vieille chapelle du château de l'Ours. Comme cela m'était loin! Le nom même avait varié. L'Oups et l'Ours avaient fini par se confondre et par s'écrire l'Ourps. Ah! Si l'oncle Antoine permettait de déceler les caves du château et de pénétrer par les souterrains dans la crypte de l'église, peut-être bien qu'on y découvrirait de curieux restes. Il partit, et, songeant à obtenir de la tante Norine qu'elle décida à son mari à laisser pratiquer des fouilles, il se dirigea vers sa chaumière. Mais il dut remettre à plus tard l'ouverture de ses travaux d'approche, car la vieille grognait, exaspérée, le nez sur un calendrier, l'oreille au guet, écoutant des mugissements de vaches. « L'oncle va bien ?» fit Jacques. « Oui, da, il est dans l'étable, tiens, tant !» L'on entendait en effet une voix qui jurait et des claquements de fouet. bon Dieu, mon garçon !» dit Norine. « V'là la barrée qui est pas prise !» Il y a les 3 semaines passées, je comptais et l'additionna, en suivant avec le bout de son doigt les jours sur l'almanach. Au reste, il y a la si belle, oh, qui commence à y monter dessus, et c'est le signe. Depuis tant qu'il y a les gueules qui nous empêchent tout dommage, il n'y a pas, va falloir qu'on la ramène aux Romains. Et répondant aux questions de Jacques, elle expliqua que la barrée était une vache difficile à remplir. Presque toujours, il fallait recourir aux taureaux, et c'était ennuyeux, car cela les faisait mal venir du berger, qui n'aimait point qu'on lassât sa bête. Et puis que toi, tu t'y mets pas main, la main sur le dos, on monte l'oncle Robin la monte. Si tant qu'avec son échine d'âne, ça l'empêche de prendre, cria l'oncle Antoine, qui apparut furieux, tirant avec une corde sur la vache dont la tête beuglait en jetant de tous les côtés des coups de corne. Ben, t'as une jolie dégaine à parler comme ça, mon homme, puisque t'es si malin. Ben, dis donc, toi, chez François, qui mettra la main sur le dos à la vache pour voir. Le vieux haussa les épaules. Sûr que j'y vais, dit-il. Tiens, là pour toi, sale carme. Et il appliqua avec le manche de son fouet un solide horion sur le crâne de la bête qui s'ébroua. Jacques l'accompagna. Ils descendirent lentement le chemin du feu. Nous avons de l'avance, dit l'oncle. Le berger, à 7 heures, doit garder les vaches dans le pré. Ça fait rien, du reste. Nous laisserons la balle chez lui en passant, et nous irons le prendre. Ils traversèrent la grande route de Bray et rejoignirent par une ruelle le village de Jutigny. C'était, dans chaque sente qu'ils franchissaient, des saluts et des bonjours de vieilles marmottes, ravaudant dans le cadre d'une fenêtre qui les tranchait au buste. Sur le seuil des maisons, les marmots, sales comme des peignes, les cheveux dans les yeux, boudaient en tenant dans leurs mains des tartines échancrées par des coups de bouche. Ils s'arrêtèrent devant une chaumière neuve, précédée d'une cour, dans un coin de laquelle ondulaient des roses trémières d'un rouge sang, des roses en bâton, ainsi que les appelait l'oncle. Ils soulevèrent le loquet d'une porte à claire-voie, attachèrent la barrée à un poteau planté dans la cour, puis refermant la porte, ils s'engagèrent, au tournant de la rue, dans une allée longée d'ormes. Ils aboutirent à une prairie immense. Jacques demeura surpris par l'étendue de ce paysage, couché à plat, sous un firmament dont la courbe semblait atteindre la terre à l'horizon, là-bas, dans un lointain bouqueté par des touffes d'arbres. Au milieu de cette prairie courait un sentier bordé de saules, aux troncs bas, aux feuillages bleuâtres, dégageant comme une fumée dès que le vent soufflait. En avançant, il s'aperçut qu'entre cette haie serrée de saules coulait une minuscule rivière, la Voulzie, moirée de cercles de bistre par les seaux capricorns des araignées d'eau. La rivière, célébrée par Hégésippe Moreau, serpentait en de silencieux et frais méandres, se lovait à certaines places en des boucles toutes bleues, au fond desquelles frétillaient, en tournant sur eux-mêmes, les feuillages dédoublés des rives, puis elle se déroulait, s'allongeait en ligne droite, emmenant avec elle tout un courant de ciel entre ses deux bords. Un rayon de soleil dora le pelage du pré. Le vent accéléra la course des nuages qui se grumelaient comme un lait caillé au loin, et il les poussa au-dessus de la Voulzie dont l'azur se pommela de taches blanches. Une odeur frigide d'herbe, une senteur fade, légèrement salée d'ocre, monta de ce sol vert, estompé de marques brunes par les sabots du bétail. Ils passèrent la Voulzie sur un pont de planches, et alors, derrière le rideau franchi des saules, une autre partie du pré s'étala, piétinée de toutes parts par un troupeau de vaches. Il y en avait de toutes les couleurs, de toutes les nuances, des isabelles et des baies, des blanches et des rousses, des noires dont les irrégulières macules ressemblaient aux coutures d'un encrier versé. Les unes, vues de face, bavaient en beuglant, les cornes en barres de fourche, le fanon haut, regardant de leurs yeux en lumière l'espace qui trépidait dans la poudre bleutée du jour. D'autres, vues de derrière, montraient seulement, au-dessous des deux salières de la croupe, une queue qui oscillait telle qu'un balancier, devant les turgides amas de leurs mamelles roses. Éparpillées dans la plaine, elles formaient une sorte de circonférence autour de laquelle erraient deux chiens-loups qui tiraient la langue. « Pauvre papillon Robono !» dit le père Antoine, désignant les deux chiens. « Le berger est là !» Et en effet, ils l'aperçurent, qui tapait, les yeux baissés avec son bâton, sur des mottes écrasées de terre. « Eh ben, François, ça ira-t-il » Il releva sa face glabre et dure, se passa la main sur son bec d'aigle et d'une voix tout à la fois traînante et goguenarde. « ben oui, et quoi que ça, père Antoine, j'ai idée à vous voir, que vous venez au moins vers moi pour la barrer. » L'oncle se mit à rire. « Là, t'entends tout, toi. Oh, t'es pas simple, mon homme. Tu vois aussi de quoi qu'il en retourne. » Le berger haussa les épaules. « Ah ben, c'est temps, c'est égal. Je serais point outré si elle crevait un sacré robinière, » dit-il. Il se leva, regarda le soleil, et saisissant la corne de fer blanc qu'il portait en bandoulière, il en tira par trois fois des sons prolongés et rauques. Aussitôt, les chiens rabattirent les vaches en un seul tas qui fluctua. Puis, divisées en deux colonnes, elles s'éloignèrent à la queue leu-leu par de différentes routes. « Il prévient avec sa corde le village du retour du bestial, » fit l'oncle. Et il ajouta, voyant Jacques étonné par l'indifférence de François qui ne s'occupait plus des bêtes, « Oh, ils connaissent le chemin de leur étable, il n'y a pas besoin qu'on les mène. »« Ici !» cria le berger en s'adressant aux chiens, qui grondaient hérissés et les dents découvertes dès qu'ils s'approchaient de Jacques. Et ils partirent. Aussitôt arrivés à la maison, François s'approcha de la barrée qui meuglait, la détacha, et à coups de souliers et à coups de poing, il lui enfila la tête dans une espèce de guillotine en bois installée près de l'étable. La vache ahurie ne remuait plus. Soudain, la porte de l'étable s'ouvrit et une masse fauve, aux mufles ramassés, au col court, à la tête énorme, aux cornes brèves, sortit lentement, retenue par un câble qui se déroulait autour d'un treuil. Un frisson scia le poil de la vache dont les yeux s'exorbitèrent. Le taureau s'approcha d'elle, la flaira, et d'un air détaché regarda le ciel. « Allons !» clama François, qui sortit de l'étable muni d'un fouet. « Allons, sus, cadet !» Le taureau demeura calme. « Mais c'est-il beau aujourd'hui ?» Le taureau reniflait ferme sur ses pattes, laissant pendre sous sa croupe deux longues bourses qui semblaient rattachées au ventre par une grosse veine terminée en un bouquet de poils. « Allons, dessus !» hurla l'oncle Antoine. De nouveau, de sa voix monotone, François siffla « Sus, cadet !» Et la bête continua de ne pas bouger. « Allons, feignant, propre à rien !» Et le berger l'enveloppa d'un grand coup de fouet. Le taureau baissa la tête, leva les uns après les autres ses quatre pieds et sonda d'un œil indifférent la cour. L'oncle s'approcha de la barrée et lui releva la queue. Sans se presser, le taureau fit un pas, sentit le derrière de la vache, donna rapidement un coup de langue et ne remua plus. Alors François s'élança avec son manche de fouet. « Mais salaud carcan, t'es donc bon à faire un pot-au-feu !» gueulait de son côté l'oncle Antoine en cognant à tour de bras sur la bête avec sa canne. Et soudain, le taureau s'enleva lourdement et enjamba maladroitement la vache. L'oncle lâcha sa canne, se précipita sur la barrée dont il aplatit le dos avec ses mains, tandis que du bouquet de poils jaillissait sous le taureau quelque chose de rouge et de biscornu, de mince et de long, qui frappait la vache. Et ce fut tout. Sans un halètement, sans un cri, sans un spasme, le taureau retomba sur ses pattes et, tiré par son câble, rentra dans l'étable, pendant que la barrée, qui n'avait éprouvé aucune secousse, qui n'avait pas même exhalé un souffle, s'allégeait de peur, regardant effarée, comme avec des yeux bouillis autour d'elle. « C'est tout cela ?» ne put s'empêcher de s'exclamer Jacques. La scène n'avait pas duré 5 minutes. L'oncle et le berger éclatèrent de rire. « Ah, oh, ça, mais son taureau est impuissant !» dit Jacques alors qu'il revint avec l'oncle. « Non, c'est un bon robin. François lui donne trop de fourrage et pas assez d'avenne, mec, c'est tout de même un cadet qui flambe. Et c'est ainsi chaque fois qu'on mène une vache au taureau. C'est aussi peu désordonné et aussi court. Ben certainement, mon homme. Le robin, il veut plus ou moins vite, mais ça tarde pas plus que t'as vu, une fois que ça se fait. » Jacques commençait à croire qu'il en était de la grandeur épique du taureau, comme de l'or des blés, un vieux lieu commun, une vieille panne romantique rapetassée par les rimailleurs et les romanciers de l'heure actuelle. Non, là, vraiment, il n'y avait pas de quoi s'emballer et chausser des bottes molles et sonner du cor. Ce n'était ni imposant ni altier. En fait de lyrisme, la saillie se composait d'un amas de 2 sortes de viandes qu'on battait, qu'on empilait l'une sur l'autre, puis qu'on emportait aussitôt qu'elles étaient touchées, en retapant dessus. Sans dire mot, ils arpentaient maintenant la grande route de Longueville, suivis par la vache que l'oncle tirait après lui au bout d'une corde. Tout à coup, le vieux toussa, puis se plaignit de la difficulté qu'il éprouvait à gagner de l'argent. Après ces lamentations coutumières, il toussa encore et ajouta « Oh, si seulement ce qui vous doit 8 heures des pas à vous rendre, on aurait tout de même belle d'être heureux. » Jacques, ne répondant pas, il appuya « J'aurais tant seulement 30 francs qui me reviennent que ça me ferait bien plaisir. »« Vous les aurez demain, mon oncle, » fit Jacques. « Votre moitié de feuillette vous sera payée, soyez-en sûr. »« sans doute, mais avec les intérêts qu'on m'aurait donnés à Provins, si j'en y avais porté la somme. »« Avec les intérêts. »« Oh, ben, t'es un vrai homme, toi. » Jacques ruminait tout seul. L'argent arrivera demain, sans doute. Morand a touché les sommes qui me sont dues avant-hier. En payant, ainsi qu'il a été convenu, les termes arriérés et en désintéressant les plus opiniâtres des créanciers, il a pu arrêter la saisie qui me menaçait. C'est une halte. Il doit me revenir à peu près 300 francs. « Bon, j'en ai assez, conclut-il, pour me liquider ici et pour, dans 3 ou 4 jours, prendre avec Louise l'express de Belfort. » Cette idée qu'il allait enfin quitter l'Ourps, rentrer à Paris, retrouver son intérieur, son cabinet de toilette, ses bibelots, ses livres, le transporta. Mais quoi ? Ce départ ferait-il taire la psalmodie de ses pensées tristes ? Et décanterait-il cette détresse d'âme dont il accusait la défection de sa femme d'être la cause? Il sentait bien qu'il ne pardonnerait pas aisément à Louise de s'être éloigné de lui au moment où il aurait voulu se serrer contre elle. Puis la terrible question de la vie en commun était là. Jusqu'alors, ils avaient vécu librement dans des chambres séparées au large. Ils s'étaient évité l'embarras des détails ridicules, la honte des soins cachés. Au château, il avait bien fallu demeurer ensemble, se coucher et se lever dans la même pièce, et, si bête que cela fût, il jugeait maintenant sa femme diminuée, éprouvait une gêne, presque une aversion, pour le contact de son corps à certains jours. Dès le retour à Paris, il allait chercher un pauvre logement, et il ne pouvait raisonnablement espérer qu'il aurait, comme par le passé, sa chambre. Cette perspective de ne plus respirer seul au moment du repos l'atterra. Puis il savait bien que si l'homme abdique pour les tribulations intimes de la femme toute répugnance, c'est parce que, semblable à un milieu réfringent qui déforme la réalité des choses, la passion charnelle illusionne et fait du corps de la femme l'instrument de ses redondantes joies que la misère de ses rebuts efface. Avec Louise, malade et lasse, inquiète et froide, aucun désir n'était plus possible. La tare originelle de la femme restait seule, sans compensation d'aucune sorte. Ce séjour à l'ours aura vraiment une bienheureuse conséquence. Il nous a habituellement initiés à l'abomination de nos âmes et de nos corps, se dit-il amèrement. Bof, Louise me décourage. Eh ben, tu ne parles plus, mon neveu, fit l'oncle. Jacques regarda. Il avait, sans y prendre garde, atteint la porte du château. Bonsoir, l'oncle, je vous verrai demain. Il monta l'escalier et rejoignit sa femme en larmes. Voyons, qu'y a-t-il? Et il apprit que la tante Norine avait perdu toute retenue alors que sa nièce l'avait priée de lui prêter des draps. Elle s'y était refusée, disant qu'elle ne changeait pas de draps, que d'ailleurs les siens étaient neufs et qu'il pourrait y avoir chez eux des Parisiens des causes qui empoisonnaient le linge. Puis elle avait en même temps réclamé l'argent de la feuillette et parlé des gens qui, lorsqu'ils ne sont pas riches, gaspillent la nourriture en la donnant aux chats. Elle avait voulu reprendre la bête. Il est bon à neiger dans une mare, criait-elle. Et il avait fallu que Louise s'interposât entre elle et le chat, dont la patte soudain élargie manœuvrait tout un jeu de griffes. Bref, elle était devenue insolente et féroce, et cela en présence de la femme enceinte de Savin, qui, venue avec sa fille pour apporter les provisions, avait d'abord adjuré Louise d'être la marraine de l'enfant à naître, puis s'était réunie à la tante Norine pour l'insulter, aussitôt qu'elle avait appris que la dame à carotter n'était pas riche. Non, je ne supporterai pas d'être ainsi humiliée par des paysans, dit Louise. Je veux partir. Jacques dut la raisonner. Elle finit par se calmer, mais déclara d'un ton ferme qu'aussitôt l'argent arrivé, elle prendrait le train. Soit, dit Jacques, mais j'en ai assez, moi aussi, de l'hospitalité du château de l'Ours. Et puis partir un jour plus tôt, un jour plus tard, ça m'est égal. Mais c'est ce pauvre Minet qui m'inquiète, reprit Louise, en caressant le chat qui la regardait d'un air suppliant, en tendant ses pauvres pattes. J'ai peur qu'il ne l'assomme dès que nous aurons le dos tourné. Laisse-moi l'emmener, dis. Oh, je ne demande pas mieux, mais comment faire s'il était seulement valide? Et Jacques s'approcha de la bête, qui se souleva péniblement et pleura dès qu'il la toucha du bout des doigts. Au fait, dit-il, c'est tout de même le seul être vraiment affectueux que nous ayons rencontré ici. Et encore, grâce à Norine, qui a pendant si longtemps frustré cet animal des rogatons qu'on gardait pour lui. C'est à peine si nous avons eu le temps de nous l'attacher.